10h, 11h30.
Tendance première.
Et nous allons ouvrir tout de suite notre dossier du jour avec notre invité, le docteur Catherine Gillin est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Neurologue, on va faire le point sur la maladie d'Alzheimer, avec des choses intéressantes qu'on a pu certainement lire dans la presse, mais sur lesquelles on va faire un peu le point, parce qu'on va se poser la question de savoir si on a de réelles promesses ou encore des espoirs déçus. Vous m'avez signalé qu'il y a un très grand nombre d'études et d'essais cliniques qui sont réalisés sur la possibilité de guérir de la maladie d'Alzheimer, ou en tout cas de contrôler peut-être cette maladie de manière plus efficace. Aucun de ces essais cliniques n'a réellement abouti aujourd'hui, et donc, pour le moment, aucun moyen de stopper la maladie ou d'en guérir. Mais, je trouve aussi que le nombre d'essais cliniques dont vous m'avez parlé, qui est important, il y a plus de 1000 essais qui ont été réalisés depuis le début des années 2000, montre quand même qu'il y a... Un réel travail aujourd'hui des scientifiques pour essayer, alors d'une part de mieux comprendre, mais de maîtriser aussi cette maladie. Et ça, c'est plutôt optimiste et un bon espoir.
Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, je pense que c'est très important de le souligner parce que on entend un petit peu
tout et n'importe quoi
dans le langage courant. Oui, on ne fait rien. Ça bouge beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est une maladie finalement qui est multifactorielle. Elle dépend vraisemblablement d'une susceptibilité génétique. Ça veut dire la combinaison d'un certain gène avec certaines molécules dans notre corps peut nous rendre plus sensibles à la développer. Ça dépend aussi du bagage cognitif et intellectuel qu'on a pu développer. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. On le sait, on l'a déjà dit aussi, que des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, etc., sont vraiment des facteurs favorisants. Le diabète et l'insuline, puisqu'il y a beaucoup de récepteurs à l'insuline dans l'hippocampe, qui est la première zone atteinte au niveau du cerveau. Et donc, c'est une maladie qui est difficile à comprendre vraiment dans l'enchaînement des événements pathologiques. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut définir exactement quand elle commence.
Oui.
Est-ce que c'est uniquement une démence, c'est-à-dire à partir du moment où tous les troubles de la mémoire, du langage, du comportement mènent l'individu à perdre son autonomie, ou bien commence-t-elle avant la démence? Et en fait, la réponse est oui. On peut avoir une maladie d'Alzheimer sans être encore dément. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y a un délai énorme, à peu près 15 ans, entre la mise en route de cette maladie dans notre cerveau et la déclaration des premiers symptômes.
Oui, c'est ça.
Avec ce qu'on a déterminé pendant longtemps, le MCI, c'est-à-dire mild cognitive, des troubles cognitifs moyens, où on se disait, tiens, est-ce qu'ils vont évoluer vers l'Alzheimer ou pas? Et là aussi, ça prouve qu'on doit essayer de comprendre le mécanisme le plus précocement possible pour arriver à les identifier le plus précocement possible. Parce que la maladie, on pourra l'enrayer, en tout cas essayer de l'enrayer, si on peut être tout juste au départ du processus pathologique.
C'est ça.
Et c'est ça que l'on doit essayer d'arriver. Mais donc, il y a deux débats éthiques dans l'histoire. Le premier débat, c'est définir la maladie et quand fait-on le diagnostic? Vous rappelez, on avait fait une émission sur les biomarqueurs.
Oui, qui sont très importants et qui, eux, sont présents extrêmement tôt, même...
Ah oui, ils sont présents dès que ça se met en route.
Oui.
Donc, il y a... D'abord, c'est en 2000... mes petites notes, parce que les dates par cœur, là, c'est ma mémoire. Donc, en 2007, qu'on a commencé à parler de maladie d'Alzheimer au sens, justement, large du terme, avec toute la corde des symptômes prédémentiels, de faire accepter qu'elle est prédémentielle aussi. Et en 2018, le National Institute of Aging a proposé, lui, un diagnostic uniquement sur la classification des protéines anormales. Donc, la protéine amyloïde, la protéine tau et l'atrophie conséquente. Donc, il y a même certaines personnes qui veulent faire un diagnostic par les biomarqueurs. Il y a pour l'instant en France une étude qui s'appelle INSIGHT, qui a commencé en 2013, qui suit des patients qui ont des plaintes de mémoire, mais dont tous les bilans ne montrent aucun déficit, pour voir ceux d'entre eux qui va développer éventuellement la maladie ou pas.
Ils ne sont pas désignés malades d'Alzheimer pour le moment.
Non.
mais ils présentent des troubles de mémoire. C'est la seule chose.
C'est la seule chose qu'ils ont. On se rend compte que même avec des preuves par les biomarqueurs ou par les PET scans, les scanners à positron à l'amyloïde, s'ils ont des charges amyloïdes, que le taux qui finalement évolue vers la maladie d'Alzheimer vraie n'est pas du tout 100%. Maintenant, c'est peut-être aussi une question de délai, parce que l'on sait aussi que c'est une maladie qui augmente avec l'âge.
C'est ça.
On est quand même pratiquement à du 20% à partir de 80 ans et du 40% à 90 ans. Même qu'il y a des détracteurs qui disent que c'est un vieillissement normal et que ce n'est pas une maladie. Mais ça, je trouve ça presque une insulte pour les malades, hein, entre nous. On ne va pas commencer à dire qu'un cancer du sein ou de la prostate, qui sont pourtant extrêmement fréquents, qui touchent quand même 15% de la population, on ne va pas aller dire que ce ne sont pas des maladies, quand même. Hein.
D'autant que ce que vous dites ici, c'est que la question éthique est de se dire, est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir un facteur prédictif sur les biomarqueurs et se dire, on va détecter tous les biomarqueurs et traiter tous les gens qui présentent les biomarqueurs, sachant que tous ces gens ne vont pas forcément développer la maladie. Ça, c'est une des questions qu'on analyse aujourd'hui.
Absolument.
Pour essayer de comprendre.
Il y a ça, et puis il y a le fait qu'on n'a pas encore de traitement, sauf ce scoop qui date du début du mois. Donc, à partir du moment... Bon, les traitements que nous avons pour le moment, les anticholinestérasiques, qui sont sortis au début des années 90, sont basés sur un processus qui, finalement, est la résultante du processus pathologique. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, on avait expliqué que dans les neurones, donc les cellules nerveuses elles-mêmes, il y a l'apparition de deux protéines anormales, c'est-à-dire qu'au départ, ce sont des protéines normales.
Oui.
La protéine amyloïde est une protéine qui fait partie de notre corps, pas seulement dans le cerveau d'ailleurs. La protéine tau, tubuline associated unit, est une protéine très importante dans le neurone. C'est une espèce de rail qui permet le transfert de molécules dans les neurotransmetteurs. Et puis, par un processus pathologique, chacune des deux vont transformer leur forme. Et quand une forme d'une protéine devient anormale, elle n'est plus métabolisée de la même façon. Et donc, ça fait des amas qui deviennent tout à fait inefficaces. L'amyloïde fait des amas entre les neurones et, si vous voulez, interrompt le dialogue entre les neurones, tandis que la protéine tau va faire un enchevêtrement, on appelle ça les altérations neurofibrillaires à l'intérieur du neurone, qui devient tout raide, qui n'est plus efficace et qui meurt. Et donc, petit à petit, il y a comme ça une cascade de modifications du fonctionnement. Et donc, c'est largement représenté dans ce qu'on appelle le cortex, donc la structure cérébrale où il y a tous ces neurones qui sont rassemblés, mais aussi dans des amas de neurones qui sont plus profondément dans le cerveau, dont un plus particulier, le neurone de Meynert, qui est très très riche en acétylcholine. Et donc ce que l'on a trouvé dans les années 90, c'est des médicaments qui permettent d'augmenter la charge de l'acétylcholine qui intervient tout à fait au niveau de l'hippocampe, qui est vraiment cette porte d'entrée, ce péage de comment on pourrait dire ça, de mise en code neuronal de l'information à retenir.
Mais donc on n'agit pas sur la cause.
Voilà. Ces médicaments que nous avons agissent sur le symptôme.
C'est ça.
Ils agissent un certain temps, ils agissent de façon très irrégulière d'un patient à l'autre. Comme vous le savez, il y a une polémique pour les supprimer.
Ouais.
Je trouve ça aussi une polémique assez particulière. Je pense que c'est parce qu'ils coûtent cher. Parce que dans la maladie de Parkinson, on donne aussi des médicaments symptomatiques qui ne guérissent pas. Il n'y a personne qui lance l'idée de supprimer les dopaminergiques. Hein.
Non, puisqu'on n'a pas de médicaments
pour
traiter la cause et enrayer totalement la maladie. Donc.
Par contre, c'est vrai qu'il faut les donner au bon moment, c'est-à-dire eux aussi aussi tôt que possible,
oui.
Et qu'à un moment donné, quand la maladie a quand même évolué, il faut les arrêter. Mais ça, c'est l'éthique de chaque médecin à le faire et d'expliquer aux familles. Mais de là à les supprimer, je trouve, tant qu'on n'a pas d'autre alternative, non, ça ne va pas.
Travailler sur les symptômes aujourd'hui permet de freiner la progression de la maladie ou son développement, ou bien on agit encore plutôt sur, finalement, le quotidien.
Alors, avec justement ces médicaments qui augmentent l'acétylcholine, on agit sur le quotidien.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on va booster les symptômes qui sont... les neurones ne sont pas encore malades.
Oui.
Donc, à partir du moment où on les booste, c'est exactement ce qu'on fait aussi dans le Parkinson, on booste ceux qui restent. Mais le problème, c'est que ceux qui deviennent malades, c'est plic-ploc, c'est à gauche, à droite. Et petit à petit, ils vont être, les fonctionnels vont être de plus en plus éloignés les uns des autres et vont finir par ne plus arriver à se parler non plus.
C'est ça, c'est comme si dans une pièce, on a fait au fur et à mesure des petits tas de poussière qui se formaient et à un moment donné, on n'arrive plus à souffler dans les tas de poussière.
C'est tout à fait ça. Donc ça reste des traitements symptomatiques pour le moment. Maintenant, ce que l'on vise, donc depuis, comme vous l'avez cité, le début des années 2000, c'est agir justement soit sur cette protéine amyloïde anormale, la bêta-amyloïde, soit sur la protéine tau anormale qui est phosphorylée, la pTau. Alors, ce qu'on a essayé depuis lors, vraiment, c'est depuis lors, il faut reconnaître que c'est de créer, improprement appelé un vaccin, c'est pas un vaccin parce que c'est pas préventif, mais c'est le même principe, c'est à développer des anticorps contre la protéine bêta-amyloïde anormale.
Qui permettrait de ne pas avoir cette transformation de protéines dont vous parliez tout à l'heure.
Qui permettrait de casser celle qui commence.
C'est ça, d'accord. Hein.
Donc comme un anticorps, quand vous avez un anticorps contre un virus, vous allez casser la molécule virus qui va être éliminée. Alors, ça fait donc des années qu'on essaye, avec plusieurs, quand on arrive en phase 3, c'est-à-dire la phase d'étude sur les malades, avec toutes les conditions éthiques qu'il faut. On a eu des cas d'encéphalite, on a eu des cas de réactions inflammatoires gravissimes, donc on s'est orienté vers encore des nouvelles molécules. Et donc maintenant, ce que l'on fait, c'est de pouvoir injecter cet anticorps anti-précurseur de l'amyloïde. Donc là, c'est pour vraiment empêcher qu'elle se forme, effectivement. Et Biogen, donc, qui fait cette étude depuis des années, avait arrêté cette étude en phase 3 au mois de mars dernier pour effet insuffisant. Et puis, effectivement, le scoop que vous citez, c'est que là, fin octobre, début novembre, ils ont annoncé, donc ils ont discuté avec les FDA, et ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir le mettre sur le marché aux États-Unis dans un an. Mmh. Alors effectivement, la grande question, c'est pourquoi?
Ben oui, puisque ils arrêtent parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas l'efficacité attendue et que peut-être qu'il y a des effets secondaires qui sont un peu lourds. Mais finalement, après cette négociation avec la FDA, on peut se poser la question de savoir est-ce que la FDA n'a pas à un moment donné décidé de dire « c'est la première avancée ». Importante qu'on a, on ne peut pas lâcher ce morceau-là, est-ce qu'on ne va pas essayer quand même d'aller plus loin?
C'est-à-dire qu'ils ont fait une deuxième phase 3.
Ah.
Et dans cette deuxième phase 3, ils ont modifié les doses, ils ont augmenté les doses et ils n'ont pas eu d'effets secondaires plus importants. Et ils ont eu quand même des effets significatifs, apparemment. Maintenant, il faudra voir aussi exactement, de lire en détail toutes ces publications. Mais ils ont eu des effets quand même assez significatifs, à la fois sur la diminution de la recharge quand on étudie dans les biomarqueurs et les PET scans à l'amyloïde, et aussi, c'est ça le plus important, sur la clinique. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on avait essayé marchait sur les aspects d'imagerie et de taux de biomarqueurs, mais ça ne marchait pas sur la clinique. Or maintenant, apparemment, il y a quand même des progrès cliniques. Donc ça, évidemment, on attend de voir avec une grande impatience. Alors en plus, c'est très très important pour la recherche, parce que si il y a une molécule comme ça qui arrive sur le marché, on peut vraiment pousser tant les laboratoires que les pouvoirs publics à continuer les efforts pour trouver des molécules de plus en plus précises.
C'est ça, c'est comme si on venait de réaliser un grand pas en avant après être resté statique pendant des années et que ce grand pas, c'est comme si on avait construit un pont pour aller un peu plus loin et que ce pont, on invitait finalement tout le monde à pouvoir le prendre,
absolument,
passer l'étape suivante et essayer de passer les obstacles qui s'annoncent, parce qu'il y en aura encore des obstacles. Et on va en reparler dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr poser vos questions, apporter vos témoignages au 02-737-2606 par SMS au 6031, 75 centimes le message, ou un courriel à tendanceprémière@rtbf.be.
10h, 11h30.
Véronique Thiberguien sur la première.
On parle de la maladie d'Alzheimer avec le docteur Catherine Gillin, neurologue, et on parle de cette annonce faite par le laboratoire américain Biogen, qui a une réelle avancée, donc, si j'ai bien compris, avec quand même une belle excitation des neurologues tout et des spécialistes de la maladie, hein, qui disent, ah,
et des chercheurs.
On a enfin, alors on n'a peut-être pas encore tout déblayé, mais on a une belle porte ouverte qu'il faut absolument exploiter.
L'espoir, ça fait vivre.
Hein. L'espoir, ça fait vivre, et surtout, ça suscite peut-être de l'intérêt aussi, comme vous l'avez dit, des autres laboratoires.
Absolument, des autres labos, des pouvoirs publics.
Alors, ça fait du bien, parce que ça fait quand même des années que la recherche est en cours et que certains ont l'impression de stagner, alors qu'il faut quand même l'avouer, on a une bien meilleure connaissance et maîtrise des mécanismes de la maladie, même si ça pose encore beaucoup de questions, parce que la complexité de ce qui se passe dans notre cerveau quand ça déraille est énorme et qu'il faut pouvoir maîtriser tous les ensembles. Et puis, malheureusement aussi, on a pas mal de fake news. Et vous m'avez parlé d'études chinoises.
Ah, je ne sais pas si c'est une fake news, je ne sais rien.
Bah, on va voir. Pas. Moi, je ne sais pas, ces derniers temps, tout ce qui vient de Chine, j'ai un petit doute quand même. Hein, je ne sais pas.
Alors, fake news, il y a aussi, pas seulement chinois, mais il y a, je pense aussi, il y a un Américain qui a sorti un régime.
Oui.
Avec soi-disant, il avait 10-15 patients qui étaient complètement guéris. C'est un scandale, je veux dire, qu'on arrête. Si ce genre de choses existait, bah, ça serait publié justement dans Nature, dans Lancet Neurology, avec justement une cohorte de milliers de patients, bien... enfin, je veux dire, avec toutes les normes éthiques qu'il faut, mais dire que 10 patients... Le problème avec ces... Il y a un moyen de repérer les fake news. Ça, je vous dis, c'est valable pour tout. Vous écoutez la nouvelle... Et puis, vous allez voir dans les semaines qui suivent si on en parle encore. Et si ces patients-là ne viennent pas témoigner dans les semaines et dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent, oui, c'est vrai, vous savez, je suis toujours guérie, c'est que ce n'était pas vrai. Vous voyez, ça, c'est l'effet dit placebo. 30% quand même, hein, d'effet placebo dans les médicaments. Alors, effectivement, il y a une étude chinoise qui a sorti aussi tout récemment, maintenant en novembre. Une étude qui l'optique est intéressante. Vous le savez, dans la maladie de Parkinson, on avait parlé aussi, on a prouvé depuis une quinzaine d'années le rôle majeur du microbiote, donc la flore intestinelle.
Oui.
Et ça, c'est vraiment prouvé. Eh bien, en Chine, ils ont fait une étude avec des éléments naturels pour modifier le microbiote de patients Alzheimer et il semblerait qu'ils ont quelques améliorations significatives. Donc, on attend de voir. Je pense que cette étude va être reconduite en Europe et aux États-Unis avant de pouvoir dire... Maintenant, tout ça, ça nous mène à réfléchir. Je crois que la jeune génération a intérêt à écouter les conseils préventifs. C'est surtout ça. Écouter que le plus important pour garder une bonne santé, c'est la qualité du sommeil et c'est la qualité de l'alimentation.
Oui.
Vraiment. Et ça, on le sait pour tout. C'est diminuer le stress oxydatif, c'est permettre au corps de fonctionner selon son horloge biologique et pas le forcer dans tous les sens. Enfin, c'est fondamental, quoi.
Juste revenir sur le rôle du microbiote. Le microbiote joue un rôle avant l'apparition de la maladie ou pendant l'apparition de la maladie ?
Avant, parce qu'il va envoyer des agents toxiques, on va les appeler comme ça, qui vont déclencher, et puis comme entretien. Alors, je n'en sais rien pour l'Alzheimer, évidemment, mais par exemple, bon, pour le Parkinson aussi, une fois que c'est déclaré, bon, c'est déclaré. Mais il y a des études intéressantes sur l'obésité, par exemple, et sur l'angoisse, où ils ont montré, chez des souris, mais aussi ça commence chez des êtres humains, quand on injecte le microbiote d'une souris obèse à une souris non-obèse, la non-obèse devient obèse, et l'inverse est vrai aussi. Et pour l'anxiété, c'est vrai aussi. Donc,
ah oui. Il
y a vraiment quelque chose à dire. Mais il y a une autoroute via le nerf vague entre notre système digestif et notre système nerveux central.
Dont on n'a pas encore analysé tous les... Il y a encore beaucoup hein, sur le nerf vague.
Mais les jeunes neurologues ont plein de choses.
Oui, oui. Ils ont un champ d'action. La neurologie est pleine d'espoir.
Mais déjà, pour moi, c'est une carrière magnifique. Je veux dire, par rapport à ce que j'ai appris, c'est tout a changé. C'est fantastique. C'est de la jubilation tous les jours. Hein.
Alors, on va revenir sur ces traitements hein, sur lesquels on essaye d'avancer. Juste une question qui nous est arrivée par rapport à Biogen. Est-ce que Biogen pourrait être pris en préventif parce qu'on a parlé, entre guillemets, d'un vaccin
Non, justement.
Justement.
Le mot vaccin n'est pas bon.
Non.
Ce médicament ne va agir que sur justement l'amas amyloïde et la molécule précurseur de ça et le processus pathologique. Et puis de nouveau, on revient au même ébat éthique. On ne va pas commencer...
Qui on le donne ?
Mais voilà, les gens ne vont pas commencer à 30 ans à prendre des médicaments au cas où. En plus, ça n'a pas de sens. C'est la même chose pour un Parkinson. J'aime bien prendre cet exemple-là aussi. On ne va pas tous commencer à prendre de la dopamine avant. Donc, maintenant, effectivement, si on arrive à comprendre, à décortiquer des processus pathologiques, peut-être, hein, j'en sais rien, évidemment, ça évolue tellement. Peut-être que dans 50 ans, on aura des choses préventives. Oui. Maintenant, on arrive seulement à ouvrir la porte pour... traiter quand ça s'enclenche.
C'est ça.
Donc voilà, il faudra donc par contre identifier de plus en plus tôt qui est à risque. Et pour ça, il y a aussi en France le développement d'un algorithme assez extraordinaire où on met toutes les informations personnelles du patient, son passé éducatif, son alimentation, son mode de vie... mais aussi les tests neuropsychologiques, le PET scan à l'amyloïde, les biomarqueurs. On essaie d'ailleurs de trouver, de pouvoir identifier les biomarqueurs au niveau sanguin et pas au niveau liquide céphalorachidien pour éviter la ponction lombaire, et de mettre tout ça dans un grand tableau pour voir qui, finalement, a développé la maladie et donc identifier de plus en plus tôt les gens qui sont plus à risque.
C'est ça.
Oui, c'est ça qui est important.
Parce que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est vraiment le moment où ça commence.
Oui.
Le moment où ces protéines dont on parlait se transforment. Et c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir agir. Donc, c'est vraiment un rendez-vous, quoi.
Oui, oui. Attendez, parce que il y a quand même deux choses à dire importantes. Des protéines, des bêta-amyloïdes, on en développe tous.
Mmh.
Les protéines tau qui se mettent en altération fibrillaire, on en développe tous. On a vu sur les autopsies de personnes qui sont décédées pour d'autres raisons, donc sans aucun trouble cognitif, qu'à partir de 50 ans, une personne sur deux a des altérations neurofibrillaires dans la région du cortex temporal en cause, entorhinal et de l'hippocampe. Voilà, alors... on ne sait pas faire des études, ils sont décédés. Mais on sait déjà, on appelle ça d'ailleurs le primary age-related tauopathy. Par ailleurs, la protéine tau est responsable d'autres démences, à elle toute seule. Donc à elle toute seule, les tauopathies que sont la paralysie supranucléaire progressive, la dégénérescence cortico-basale, la maladie d'Hyman-Pick, etc., sont des démences à elle toute seule. Ce qui se passe dans l'Alzheimer, c'est qu'il y a les agrégats de cette bêta-amyloïde, il y a apparition de la protéine tau, et les deux ensemble, pouf, ça explose.
C'est ça,
c'est
la combinaison.
Les deux ensemble qui font que la maladie d'Alzheimer se développe.
On parlait aussi, puisqu'on est dans les diagnostics, il y a quand même pas mal d'erreurs de diagnostic, justement, par rapport à la maladie d'Alzheimer.
Il y a beaucoup d'erreurs de diagnostic, on parle d'erreurs cliniques.
Oui.
Il y a 30% d'erreurs cliniques.
C'est dû à quoi, ces 30%?
Alors, c'est dû... Vous savez bien que, bon, comme elle est liée à l'âge, mais avec l'âge, on a beaucoup de comorbidités, dont il n'est pas rare d'avoir des lésions vasculaires. Et d'ailleurs, l'association Alzheimer-démence vasculaire est très fréquente aussi. Et c'est une des raisons, je fais un petit détour, mais c'est une des raisons, des causes invoquées dans les échecs des traitements que l'on fait. C'est qu'on agit sur des cerveaux qui ont d'autres comorbidités.
C'est ça.
Et s'il y a une pathologie vasculaire déjà avancée, on n'agit pas dessus. Par contre, on a eu aussi des essais avec des médicaments hypotenseurs qui ont montré des petites améliorations. Mais là, on agit surtout sur le versant des troubles vasculaires liés à l'hypertension. Donc, le fait qu'il y ait ces comorbidités peut altérer effectivement aussi le diagnostic. Quand on dit qu'il y a 30%, c'est quand on fait des preuves avec des autopsies au niveau neuropathologique. Je pense quand même sincèrement que de plus en plus, nous, neurologues, nous sommes, et gériatres, nous sommes de plus en plus habilités à faire des diagnostics aussi précis que possible. Mm-hmm. Et nous avons recours le plus souvent quand même aux autres examens.
Mm-hmm.
paraclinique.
Ce qui permet d'affiner véritablement ce fameux diagnostic.
Alors, le premier examen fondamental, c'est de demander à un neuropsychologue. Oui. Donc, les neuropsychologues, ce sont les psychologues spécialisés dans les fonctions cognitives, fonctions intellectuelles liées aux apprentissages. Ils sont tout à fait habilités à faire des tests très précis qui permettent quand même de dire, tiens, c'est un pattern qui sera plutôt Alzheimer ou un pattern qui sera plutôt dépressif, parce que c'est une des grandes causes de troubles de la mémoire, c'est la dépression, et on peut parler du mécanisme, si vous voulez, ou bien un autre type de démence, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est très important de souligner, que l'Alzheimer représente que, si je peux me permettre, 60% des démences. Il y a 40% pour autre raison. D'ailleurs, le terme de démence est aussi un peu mis à mal, parce que ça fait une confusion dans l'esprit des gens avec la folie, avec la schizophrénie. Ça n'a rien à voir. Et il y a d'ailleurs, dans le dernier DSM-5, donc ce livre de référence des pathologies psychiatriques, on a introduit le terme de trouble neurocognitif majeur plutôt que de démence dans les cas de maladies neurodégénératives.
Donc, il y a encore pas mal de réflexions
oui.
à avoir. Et ce sont des réflexions qu'on aura aussi dans quelques instants. Pour vous mener jusqu'aux informations de 11h, Léni Kravitz.
Et on retrouve Tendance Première avec vous, Véronique Thiberguien. On parle d'Alzheimer.
Oui, dites, on en ferait des bons dans la recherche scientifique. 15 milliards.
Ça pourrait aider. 15 milliards d'euros.
Toutes les maladies qu'on pourrait déjà éradiquer, celles qu'on pourrait découvrir, qu'on n'a pas encore découvert. Ah mon Dieu, ce que ça serait bien. Oui, mais alors finalement, c'est vrai que les diamants, c'est tellement mieux.
Diamant, c'est éternel.
Oui, le... Bon, est-ce que vraiment l'éternité? Enfin bon. C'est un autre débat. Nous allons poursuivre évidemment cette émission sur la maladie d'Alzheimer avec le docteur Catherine Gillin qui est avec nous, neurologue. On va essayer de... Vous êtes nombreux à réagir et à poser des questions. On va essayer de regrouper un peu certaines questions parce que vous allez parfois dans les mêmes sens et vous posez les mêmes questions, notamment par rapport à l'alimentation, la dépression, etc. Mm-hmm. Donc on va y revenir juste après ceci.
10h, 11h30.
Tendance Première.
Véronique Thiberguien.
Ça a pas mal suscité de réactions le fait de dire qu'il faut s'alimenter correctement et que ces facteurs de prévention qu'il faut peut-être que nous inculquions déjà nous à nos enfants, de remontrer et démontrer l'importance d'un bon sommeil et d'une bonne alimentation. L'alimentation, on focalise sur quoi en réalité ?
Sur tout ce qui est dit antioxydant, donc notamment les flavonoïdes, vous savez, c'est ce qui donne la couleur à nos fruits et nos légumes et qui ont vraiment un gros pouvoir antioxydant sur les oméga-3, sur éviter les mauvaises graisses, les graisses trans et favoriser les bonnes graisses, manger des bonnes protéines, pas trop de sucre, voilà. Éviter les choses raffinées, éviter les choses trop cuites.
Très équilibré.
Ben en fait, oui. Il faut revenir à l'alimentation saine, équilibrée et variée aussi. Il ne faut pas croire qu'en faisant un régime, en supprimant 36 trucs, on ira beaucoup mieux. Non.
Alors, vous êtes nombreux à parler de certains aliments au pouvoir extraordinaire, mais je vous renvoie vraiment vers, alors à ce moment-là, une diététicienne qui pourra mieux vous orienter.
En a d'excellentes.
Oui, en plus, qui pourront vous orienter vers ce type d'alimentation. Alors, par contre, on a une question intéressante. Deux personnes qui ont réagi par rapport à la dépression. L'une nomme les stress post-traumatiques. Peuvent-ils aussi être des facteurs favorisant de l'apparition de la maladie, puisqu'on a parlé de dépression et de stress tout à l'heure.
Alors, c'est une question qui va avoir deux réponses. Comment fonctionne la mémoire ? La première chose, c'est que vous devez saisir l'information du milieu environnant. Pour être réceptif à ça, il faut être attentif. C'est le chef de file de tout. Qu'est-ce qui perturbe l'attention, si ce n'est la dépression ? On perd complètement la vigilance. Si ce n'est le trouble déficitaire de l'attention, évidemment. La fatigue, l'angoisse, le stress, notamment le stress professionnel qui nous prend la tête et qui nous empêche d'être attentifs aux autres événements. Oui. Les troubles du sommeil, ça on en a déjà parlé longuement, mais c'est tellement fondamental. Puis ils vont agir sur un autre niveau, puisque c'est pendant le sommeil qu'on est inscrit dans notre mémoire. Et alors aussi, ça il faut absolument le dire, la plainte majeure des troubles de mémoire actuellement, c'est les surstimulations. Notre cerveau n'a pas encore eu le temps de s'adapter à cette nouvelle façon que nous avons de vivre. Il n'y a pas si longtemps, du côté de peut-être mes grands-parents et les arrière-grands-parents de la nouvelle génération, l'information, on rentrait chez soi le soir, on ouvrait son journal, on s'asseyait dans un fauteuil et on lisait en faisant attention au journal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a tous le téléphone en main, on se pose une question. D'abord, le téléphone nous apprend tout le temps qu'il y a quelque chose. Et puis, on se pose une question. Ah oui, c'est quoi? Toc, 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 on va voir. Et puis, on passe à autre chose. Ouais. Donc, on ne se met pas dans le principe de vouloir aller chercher une information, se mobiliser pour y aller. Moi, quand j'étais étudiante, j'allais à la bibliothèque. Hein. Donc, il fallait qu'elle soit ouverte, il fallait que je sois inscrite, il fallait que le livre soit là. J'étais très contente quand le livre était là. Comme je ne pouvais pas l'emporter, il fallait faire très attention. Donc, la mise en jeu de l'attention était considérable et donc de la mémorisation aussi, puisque vous vous dédiez un moment à ça.
C'est ça.
Le fait des surstimulations actuelles, du zapping dans tout sens, le fait que on vous envoie des mails, après 10 minutes, on vous dit « Ah, t'as toujours pas répondu ». Ça va tellement dans tous les sens, le cerveau n'a pas le temps de s'adapter, notre chef de file attentionnel est complètement perturbé. Or, l'attention, c'est le chef de file. Donc, la dépression, non. En soi, non. Maintenant, la maladie d'Alzheimer peut parfois se déclarer, par les petits troubles de mémoire qu'on dit c'est lié à l'âge, parce qu'il y en a qui sont normalement liés à l'âge, dont notamment... Ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas le nom des personnes, ça c'est logique. Mais s'il y a une modification du comportement de quelqu'un avec, effectivement, à ce moment-là, c'est l'atteinte du lobe frontal qui fait qu'on est moins attentif, moins réceptif, moins émotionnel. C'est une pseudo-dépression et il faut arriver à faire le diagnostic différentiel avec une maladie d'Alzheimer.
Mais est-ce que ça veut dire que notre façon de vivre aujourd'hui, cette surstimulation, parfois aussi des problèmes de dérèglement alimentaire et ces choses dont on parle quand même beaucoup, hein, qui font un peu les maux du siècle aujourd'hui, pourrait provoquer une augmentation du nombre de cas d'Alzheimer?
C'est probable.
Ah ouais.
J'en sais rien, parce que il faudra se projeter, il faudra suivre.
Puisqu'à la surstimulation, court-circuite les mécanismes de la mémoire.
On met en place quand même des choses qui, potentiellement, pourraient déclencher. Alors, déclencher, pas chez tout le monde, mais déclencher chez certaines personnes qui ont soit une susceptibilité génétique, donc la plus importante, c'est avec une apolipoprotéine E4, on ne va pas rentrer dans les détails, qui est une protéine qui fait circuler le cholestérol, et qui, quand on a une modification, enfin, on n'est pas une modification, quand on a un allèle E4 prédominant, on est plus à risque de développer parce qu'elle agit dans la formation du précurseur de la protéine bêta-amyloïde. Donc, il y a à ce moment-là concentration de facteurs de risque qui peuvent faire qu'on est plus à risque. Alors, sans doute aussi, c'est vrai qu'on peut dire, tiens, il a déclenché après l'accident de voiture qu'il a eu, ou après avoir perdu son épouse, il a déclenché. Oui, je pense que ça peut jouer, mais ça va faire décompenser une situation qui était relativement contrôlée. Et ce contrôle dépend aussi de la réserve cognitive que nous avons. Et là, on revient aux enfants. C'est très important de ne pas oublier que nos enfants ne sont pas du tout des adultes en miniature. Le cerveau est en pleine formation et tout ce qu'ils apprennent par l'éducation, par l'école, par les jeux, par les échanges, par les lectures, etc., ils créent leur circuit cérébral, ils créent leur réserve cognitive qui ne sera terminée qu'à 17-18 ans. Et cela se crée durant le sommeil profond. Donc, s'il vous plaît, faites dormir vos enfants assez tôt et sans écran.
Si possible. Non, il faut.
Il faut.
Il faut. Vous avez dit une chose qui m'a aussi interpellée tout à l'heure. Alors, la maladie d'Alzheimer est multifactorielle. Ce n'est pas une cause unique. On connaît le mécanisme qui déclenche, mais il n'y a pas une cause unique. C'est plein de facteurs.
On connaît le mécanisme enclenché.
Enclenché, pardon, oui.
Oui, mais pas ce qui déclenche.
C'est ça.
Il y a des formes génétiques.
Mais elles sont rares, hein, vous m'avez dit.
C'est
1%, c'est pas...
Non, mais ça veut dire qu'il y a donc une susceptibilité génétique.
Oui, mais...
Alors, ce qui est étonnant quand même, parce que, bon, ces maladies génétiques, elles sont rares, elles sont autosomales dominantes, donc c'est d'office, entre guillemets, c'est des maladies jeunes. Donc, ce sont des gens qui déclarent vraiment dans trentaine, quarantaine. dont la clinique n'est pas toujours la même, il y a parfois des symptômes associés, mais donc voilà. Mais il faut faire une différence entre les maladies génétiques et ce qu'on appelle l'agrégation familiale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « oui, mais mon arrière-grand-père l'a eu, mon grand-père l'a eu, mon père l'a eu, donc je vais l'avoir ». Alors, c'est peut-être des gens qui sont porteurs justement de cette apolipoprotéine altérée,
oui.
Ou prédominante, je dis toujours altérée parce que elle est pathogène, mais elle n'est pas altérée. Bref, ou bien porteurs d'autres susceptibilités génétiques sur lesquelles viennent se rajouter des facteurs. Donc on a des prédispositions, mais ça c'est valable pour tout dans les maladies. Tout.
C'est très compliqué quand même de dire mon arrière-grand-père est décédé de la maladie d'Alzheimer parce que. Ce qu'on sait aujourd'hui de plus important de la maladie d'Alzheimer, c'est sur ces 20 dernières années qu'on l'a vraiment mis en avant, mis en lumière. Donc, on peut avoir des personnes qui sont décédées de la maladie d'Alzheimer et en fait, ce n'était pas ce diagnostic-là. D'autres qui sont décédées de démence, entre guillemets, et on n'a pas déterminé que c'était Alzheimer. Ou bien,
vous avez raison.
Le terrain génétique est complexe.
Et ce n'est pas vraiment génétique, c'est l'agrégation familiale.
C'est ça.
Donc effectivement, c'est complexe. Maintenant, ça va devenir de plus en plus précis puisqu'on fait des diagnostics plus clairs.
Ouais.
Alors, peut-être que ces personnes-là qui ont dans leur famille à des âges normaux, donc ça commence soixantaine, septantaine et ça augmente, etc., doivent, eux, faire d'autant plus attention à se mettre du bon côté et à faire tout ce qu'il faut pour éviter, comme on disait, manger sain, dormir bien, faire du sport, garder un travail intellectuel. On sait que les gens qui travaillent plus longtemps développent moins la maladie aussi. Donc, mais ça ne vous met pas à l'abri. Mais se donner tous les facteurs pour l'éviter, oui, ces personnes-là devraient faire attention.
Prévention, 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 un bon sommeil, une bonne qualité alimentaire aussi.
Et le sport aussi.
Et le sport, ah oui.
Ah oui, si.
Ok, alors un peu de sport. Merci beaucoup, docteur Catherine Gillin. On refera évidemment encore des points sur tout cela. Mais donc, les laboratoires Biogen, dans leur annonce, sont plutôt sérieux. C'est une vraie excitation dans le milieu médical spécialisé de la maladie d'Alzheimer. Et on espère évidemment que ça va peut-être donner un petit coup de boost et un petit coup d'accélérateur pour encore mieux comprendre la maladie, la gérer mieux aussi. Pourquoi pas un jour véritablement pouvoir dire on a quelque chose.
Je pense qu'on y arrivera, ça c'est certain.
On sera encore là, j'espère. Ça, moi, que j'espère, c'est qu'on sera encore là pour l'annoncer toutes les deux. Merci beaucoup, docteur.
Avec plaisir.
Après Calvin Harris, on retrouve notre séquence inspiration avec Nathalie Massé qui va nous rejoindre.
Tendance première. Véronique Thiberguien.